Bien, alors Evelyne Alessian a soutenu sa thèse en 2006 à Meudon, l'Observatoire, où elle a travaillé avec l'actuel directeur Claude Catala, et notamment sur les étoiles magnétiques. Alors, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup, comme je le disais, parce que si on arrive à résoudre leur structure magnétique et cartographier, évidemment, c'est très intéressant au point de vue modélisation.
Merci. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler donc du champ magnétique et des magnétosphères des étoiles massives. Je vais vous expliquer pourquoi on s'intéresse à ça, comment on mesure aussi le champ magnétique à la surface des étoiles, comment est-ce qu'on peut le cartographier actuellement, même si on n'a pas encore accès aux hypertélescopes. Et puis, je terminerai avec ce qu'on commence à connaître sur les magnétosphères des étoiles massives. Alors déjà, le champ magnétique, c'est un composant très important dans l'univers. Il intervient dans énormément de phénomènes, en particulier dans, par exemple, les jets dans les quasars, hein, ou bien ce sont dans les jets dans les radiogalaxies, donc des phénomènes très énergétiques dans lesquels le champ magnétique prend une part très importante. Dans les jets dans les proto-étoiles aussi, les étoiles qui sont en train de se former et qui sont enfouies dans ces nuages moléculaires. Le champ magnétique est aussi à l'origine de l'activité magnétique qu'on voit à la surface du Soleil, hein, les flares. Mais pas seulement à la surface du Soleil, mais aussi à la surface d'autres étoiles, des étoiles qui ressemblent au Soleil. Il est aussi responsable de la variabilité des pulsars. Donc, les pulsars sont des étoiles à neutrons qui tournent très rapidement sur elles-mêmes et qui émettent des jets radio qu'on détecte. Et ces jets radio sont éjectés grâce au champ magnétique. Et puis aussi, le champ magnétique est responsable des aurores planétaires, les aurores boréales aussi. Ça, c'est à la surface de Jupiter. Et puis ça, c'est dans notre propre atmosphère. Et c'est grâce à la magnétosphère de notre planète qu'on observe ces aurores boréales. On en observe actuellement énormément, vu que le champ magnétique du Soleil est très actif actuellement. C'est la bonne époque pour les observer. Alors, en gros, moi, ce à quoi je m'intéresse, c'est quelle est l'origine du champ magnétique et son impact dans la structure et l'évolution des étoiles. Alors, l'évolution. Je fais quelques rappels. Je ne sais pas quelles sont vraiment totalement vos connaissances en physique stellaire. Donc, voilà comment on peut décrire l'évolution d'une étoile dans ce qu'on appelle un diagramme Hertzsprung-Russell. Un diagramme Hertzsprung-Russell, pardon. Ici, nous, on a la luminosité des étoiles, ici la température des étoiles. L'étoile commence sa vie ici, dans la phase préséquence principale, descend le diagramme Hertzsprung, jusqu'à commencer la phase séquence principale, qui est la plus longue d'une étoile, pour ensuite suivre plusieurs phases post-séquence principale et terminer en naine blanche, dans le cas des étoiles de faible masse, ou bien en étoile à neutrons ou trous noirs, dans le cas des étoiles massives. Ça, c'est donc l'évolution pour une masse solaire, donc une étoile qui a la même masse que le Soleil. Moi, je m'intéresse surtout à la phase préséquence principale et séquence principale de ces étoiles. Alors ici, si on zoome dans le diagramme Hertzsprung, voilà ce qu'on a. On a la phase préséquence principale, la phase séquence principale. La principale différence dans ces deux phases, c'est que pendant la phase séquence principale, le rayon est, on peut dire, approximativement constant. Et l'énergie principale rayonnée par son étoile, c'est l'énergie nucléaire. Dans la phase préséquence principale, l'étoile est toujours en train de se contracter sur elle-même. Et la principale énergie rayonnée par l'étoile, c'est uniquement l'énergie gravitationnelle. L'étoile a donc une luminosité qui est quand même comparable à une étoile qui est sur la séquence principale, mais uniquement due à la contraction gravitationnelle de l'étoile. Ça, c'est pour une étoile de deux masses solaires et trois masses solaires. On peut continuer ainsi de suite et on peut définir ce qu'on appelle la ZAMS, la Zero H Main Sequence, le début où les étoiles commencent leur séquence principale, et puis la TAMS, la Terminal H Main Sequence, qui est la fin de la séquence principale. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe dans une étoile de faible masse, et en particulier, quel type de champ magnétique Dans des étoiles de faible masse, ces étoiles ont un petit cœur radiatif. Donc, faible masse, c'est-à-dire des masses inférieures à 1,5 fois la masse du Soleil. Elles ont un petit cœur radiatif et puis une enveloppe convective. Et cette enveloppe convective est responsable d'une dynamo qui va produire le champ magnétique, comme on observe à la surface du Soleil. Ce champ magnétique, il est de configuration complexe. Ça, c'est une reconstruction de l'image d'un champ magnétique à la surface d'une autre étoile que le Soleil. Et donc, on voit en fait plein de boucles magnétiques, comme on voit à la surface du Soleil, partout à la surface de l'étoile. Et ce champ magnétique va interagir avec son environnement, soit pendant la phase préséquence principale en interagissant avec un disque d'accrétion. Donc l'étoile est toujours en train de se contracter sur elle-même et elle a un gros disque protoplanétaire autour d'elle. Et, ou alors pendant la séquence principale, l'étoile va interagir avec son environnement par l'intermédiaire de vents stellaires. Ici, c'est le Soleil représenté avec les vents tout autour de lui. Et donc, ce diagramme est un petit peu complexe, mais ça explique en fait ce qui se passe à la rotation des étoiles. Les étoiles tournent sur elles-mêmes, elles ont un moment cinétique initial assez important, et on voit que ce moment cinétique évolue au cours du temps. Donc ici, c'est la période de rotation des étoiles en fonction de l'âge. Donc voilà en bleu et puis en violet et en vert à quoi on s'attend si le moment cinétique est constant. Et en fait, les points sont ce qu'on observe. Et puis les pointillés, c'est un modèle qui montre qu'en fait, que le moment cinétique des étoiles n'est pas du tout constant pendant l'évolution de ces étoiles. Ici, ça indique la phase préséquence principale, ici la séquence principale. Et en fait, le moment cinétique n'est pas du tout constant à cause du couplage magnétique entre l'étoile et son disque d'accrétion ici, et puis des vents magnétisés après, pendant la phase séquence principale. Alors, ça, c'est pour les étoiles de faible masse, mais à plus haute masse, au-delà de 1,5 masse solaire, les étoiles ne sont plus convectives. Elles n'ont plus du tout d'enveloppe convective. Elles ont un petit cœur convectif et une grosse enveloppe radiative, c'est-à-dire que l'atmosphère est plutôt stratifiée. Il n'y a pas les grands mouvements de convection qui vont permettre une dynamo dans les couches de cette étoile. Pourtant, on observe du champ magnétique dans ces étoiles. Et ce champ magnétique, on l'observe dans ce qu'on appelle les étoiles APBP. Ce sont des étoiles qui sont chimiquement particulières, c'est-à-dire qu'elles montrent des anomalies d'abondance à la surface d'une étoile. Ces anomalies d'abondance, en fait, si on les compare, les abondances de fer, par exemple, de titane ou de chrome, par rapport aux abondances qu'on observe à la surface de notre Soleil, eh ben, ça peut être très différent. Souvent, c'est des surabondances, mais ça peut être des sous-abondances aussi. Ces champs magnétiques sont principalement dipolaires. Alors, c'est très simple, on a deux pôles à la surface de l'étoile, et puis des structures qui ressemblent à un gros aimant, principalement. Donc, rien à voir avec le champ magnétique complexe qu'on observe à la surface des étoiles de type solaire. Ces champs magnétiques sont très forts, de 300 Gauss au plus faible jusqu'à 10 kilogauss, même 30 kilogauss parfois, avec une médiane autour de 2 kilogauss. Donc, le Gauss, c'est 10⁻⁴ Tesla. Le champ magnétique de la Terre, c'est environ de l'ordre de 1 Gauss. Ces champs magnétiques sont stables sur de très longues années. On a observé des champs magnétiques pendant 30 ou 40 ans pour certaines étoiles et ils ne varient pas du tout. Alors que sur les étoiles de faible masse, on voit tout le temps ces champs magnétiques variés. Ils sont localisés dans des tâches, on voit les tâches apparaître et disparaître, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. On n'a pas de tâches magnétiques proprement dites. Et on a juste un champ magnétique qui est stable, constant, il ne varie pas. Le champ magnétique n'est pas du tout corrélé avec les propriétés de l'étoile, la période de rotation, la masse, l'âge ou n'importe quoi. Et puis, ils sont rares. Alors que dans les étoiles de faible masse, on va détecter du champ magnétique quasiment à la surface de toutes les étoiles, seulement à peu près 10% des étoiles massives montrent un champ magnétique fort. Et puis, on trouve aussi que ces étoiles sont principalement de faibles rotateurs. Quand on compare aux étoiles non magnétiques de même masse, eh ben celles qui ont un champ magnétique tournent beaucoup plus lentement que les autres. Alors, quelle est l'origine donc de ce champ magnétique dans les étoiles APBB ? Notre hypothèse favorite, c'est que le champ magnétique est fossile. C'est-à-dire que, je vais vous montrer l'animation plutôt, on pense que le champ magnétique qui est présent dans le nuage moléculaire parental au début de la formation de l'étoile est emporté par la contraction de l'étoile sur elle-même quand elle se forme. Pour finalement donner ce champ magnétique global, dipolaire, qui est stable et qui ne bouge pas avec le temps et qui ne disparaît pas avec l'évolution de l'étoile. Et on pense même que ce champ magnétique pourrait être à l'origine de champs magnétiques observés dans ce qu'on appelle les magnétars. Ce sont des étoiles à neutrons très, très magnétiques. Alors ça, c'est une vision simple du champ fossile, mais c'est peut-être vrai, ce n'est qu'une hypothèse. Pour l'instant, on n'a rien qui permet de nous dire si c'est vrai ou pas. Et on a une alternative à cette hypothèse du champ fossile. Lorsque l'étoile se forme, même une étoile très massive, au début de sa formation, elle va vivre des phases convectives, où elle va être totalement convective ou partiellement convective. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, dans ce cas-là, il y a peut-être un champ magnétique qui se crée et qui ensuite reste à l'intérieur de l'étoile une fois que l'étoile est formée. Donc moi, quand je parle d'une étoile qui est formée, c'est au début de la phase la pré-séquence principale. Une fois que l'étoile s'est dégagée de tout son cocon moléculaire dans lequel elle est née. Donc ça peut être aussi bien, pour moi, quand je parlais de champ fossile, ça peut être aussi bien le champ fossile présent initialement dans le champ de la galaxie, dans notre galaxie, ou bien aussi un champ qui a été généré pendant la formation de l'étoile. Alors, pour tester cette hypothèse, un test évident a été de se dire si le champ magnétique dans les étoiles de la séquence principale est d'origine fossile. Ça veut dire qu'on devrait aussi détecter du champ magnétique dans certaines étoiles pré-séquence principale, les progéniteurs donc des étoiles de la séquence principale. Et ces étoiles, lorsqu'on parle de masse intermédiaire ou même d'étoiles massives, ce sont ce qu'on appelle les étoiles de Herbig AEBE. Alors ces étoiles de Herbig ont été définies par Herbig en 1960. Ce sont des étoiles qui ont des types spectraux A et B, donc des températures supérieures à peu près 6500 Kelvin, qui montrent des raies en émission dans le spectre, très souvent H-alpha, même toujours H-alpha, et puis aussi dans les raies métalliques comme le fer et d'autres raies. Elles ont souvent un fort excès infrarouge qui est dû à la poussière qui entourent encore ces étoiles qui sont très jeunes. Et puis, ce sont des étoiles qui sont associées avec des nébuleuses. Ce sont les nébuleuses dans lesquelles elles se sont créées. Donc, on en trouve beaucoup dans Orion ou alors localement dans le champ de la galaxie, comme HD2775, qui illumine cette nébuleuse NGC 7023. Et alors, ces étoiles, jusqu'à il y a quelques années, on n'avait que des indices indirects d'activité magnétique. On pensait que ces étoiles avaient du champ magnétique pour différentes raisons. Et la question qu'on se posait avant ma thèse, c'est est-ce qu'on peut obtenir des évidences directes de champ magnétique à la surface de ces étoiles ? Et le problème qui se pose, c'est la difficulté de mesurer du champ magnétique à la surface des étoiles en particulier, mais surtout des étoiles de Herbig. Alors, un petit court passage sur comment est-ce qu'on mesure du champ magnétique à la surface des étoiles. Pour ça, on utilise les propriétés de polarisation de l'effet Zeeman. Alors, l'effet Zeeman, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est que le spectre d'une étoile est modifié lorsqu'il y a un champ magnétique à la surface de cette étoile. S'il n'y a pas de champ magnétique, c'est un cas totalement simplifié ici. On a une transition qui se produit, une transition dans un atome dans l'atmosphère de l'étoile, qui va produire une raie dans le spectre. Et s'il y a un champ magnétique, un des niveaux, ou même les deux niveaux, vont se dédoubler, les niveaux d'énergie vont se dédoubler pour produire en fait deux raies dans le spectre. C'est ce qu'on appelle le doublésiman. Il peut aussi y avoir trois raies, c'est le triplésiman. Et donc ces deux raies sont séparées par G lambda B, G c'est le facteur de lambda, et lambda c'est la longueur d'onde. Cette différence entre les deux longueurs d'onde nous donne une indication sur l'intensité du champ magnétique à la surface de l'étoile. Donc ça, c'est un spectre dans lequel il n'y a pas du tout de rotation. Mais si l'étoile tourne, ce qui est le cas, et c'est tout le temps le cas, et bien dans ce cas-là, le spectre va être élargi par l'élargissement Doppler. Et on obtient plutôt quelque chose qui ressemble à ça. Et le problème qui se pose, c'est que dans ce cas-là, l'effet Zeeman nous dit que on ne peut plus le détecter parce qu'à cause de cet élargissement de Doppler qui est beaucoup plus grand souvent que la séparation due à l'effet Zeeman, on perd l'information. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux raies ont une polarisation différente. En particulier, une des raies est polarisée circulairement droite alors que l'autre est polarisée circulairement gauche. Et donc dans ce cas-là, on mesure en fait la polarisation circulaire droite et la polarisation circulaire gauche, et puis on fait la différence. Donc ici, j'ai représenté les deux polarisations qui sont un petit peu séparées, donc ça, ce n'est pas quelque chose facilement visible, mais une fois qu'on fait la différence, voilà ce qu'on obtient. Ça, c'est ce qu'on appelle la signature Zeeman dans le spectre en polarisation de l'étoile. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer les spectres en polarisation V, ce qu'on appelle le spectre de Stokes V. Alors, c'est ce qu'on a fait avec... c'est ce qu'ont fait mes prédécesseurs, Claude Catala surtout, mon directeur de thèse, et puis bien d'autres qui ont essayé de détecter du champ magnétique à la surface de ces étoiles, sans beaucoup de succès. Il y a eu quelques détections, mais ces détections n'ont pu être confirmées que récemment. Mais lorsque j'ai commencé ma thèse, il y a un nouvel instrument qui a été installé au Canada-France-Hawaï Télescope, ESPADON, qui a révolutionné le champ magnétique dans la physique des étoiles. ESPADON, c'est un télescope, pas du tout, c'est un instrument installé au télescope de 3,6 mètres du Canada-France-Hawaï Télescope. Donc ici, il est là. Ça, c'est différents modules de l'instrument. On a le polarimètre, on a le réseau, et on a le prisme. Et tout ça nous fait qu'on obtient en fait un spectropolarimètre à haute résolution, donc un pouvoir de résolution de 65 000, et avec un très large, qui couvre un grand domaine spectral. Alors ça, c'est très important. Le grand domaine spectral, c'est ce qui nous manquait avant. C'est parce que lorsqu'on mesure cette polarisation dans les raies, on va combiner toute l'information qu'il y a dans les raies en même temps. A priori, l'information des raies contient le même champ magnétique, la même information sur le champ magnétique. Donc quand on combine toutes les raies en même temps, qu'on fait une espèce de moyenne pondérée, on détecte beaucoup plus facilement le champ magnétique. Donc plus on a de raies, plus c'est facile de détecter. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une grande couverture spectrale pour avoir le plus de raies possible. On a aussi un pipeline de réduction qui est très efficace et qui nous permet aussi d'optimiser au mieux un instrument assez compliqué comme celui-là. Et puis, je vous parlais de la combinaison d'informations de toutes les raies, c'est en utilisant cette technique de least square deconvolution, ou LSD, qui nous permet donc d'obtenir un signal sur bruit dans nos données qui est important. À présent, on peut descendre l'information sur le champ magnétique jusqu'à de l'ordre de 1 Gauss. Donc ça, c'est dans des cas particuliers, des étoiles qui sont assez proches et qui tournent peu rapidement, mais en tout cas, c'est devenu possible, alors qu'avant, ce n'était pas du tout possible, on était à 500 Gauss. Donc il y a ESPADON, et puis maintenant, on a une copie d'ESPADON, Narval, qui est sur le télescope Bernard Lyot du Pic du Midi, en France, 1,9 mètres. Et puis, on a aussi tout récemment un ARSPOL qui se trouve aux 3,6 mètres de l'ESO au Chili. Donc, j'utilise ces trois instruments. Moi et mes collègues, on utilise ces trois instruments pour étudier le champ magnétique à la surface des étoiles. Et voilà typiquement le genre de signature Zeeman dont je vous parlais, qu'on détecte. Là, c'est que des étoiles de Herbig, parce que c'est mon domaine, mais c'est typiquement ce qu'on détecte. Donc, une fois qu'on détecte cette signature-là, et qu'on n'a pas un truc tout plat, eh ben, on est super content, on a détecté un champ magnétique. Voilà. Ben, alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, ce champ magnétique ? Comment on interprète ces résultats ? Pour ça, on peut utiliser un modèle très simple, ce qu'on appelle le modèle du rotateur oblique. Alors, ça consiste d'une étoile sphérique, l'observateur observe par ici, puis il y a un axe de rotation qui est ici, donc l'étoile tourne sur elle-même comme ça. Le champ magnétique est incliné avec l'axe de rotation, avec un angle bêta. Et puis, sur l'axe magnétique, on place un dipôle. Alors, souvent, il est au centre de l'étoile, mais il peut être déplacé aussi. Il n'est pas forcément toujours observé au centre de l'étoile. Donc, voilà ce que ça donne lorsqu'on fait ce modèle. Tout ça, c'est toujours des modèles. Et je vais tourner un film. Donc là, on a l'étoile qui est représentée telle qu'on l'observe, nous. Et puis, les différentes couleurs, là, du blanc au noir, représentent l'intensité du champ magnétique localement. Mais ce n'est pas l'intensité du champ magnétique, c'est l'intensité du champ magnétique projeté sur la ligne de visée. Donc, la composante du champ magnétique sur la ligne de visée. Et c'est ça que nous donne l'information. C'est à ça qu'on a accès lorsqu'on étudie la polarisation circulaire. Donc ici, on a le profil de Stokes V, donc la polarisation circulaire. Et vous voyez que quand l'étoile tourne, on a la polarisation qui change au cours du temps. Et cette polarisation va changer différemment suivant la géométrie de l'étoile et du champ magnétique à la surface de l'étoile. Et là, c'est le champ magnétique intégré sur toute la surface de l'étoile, suivant la phase de rotation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on observe les étoiles à différents instants pour voir varier cette signature magnétique. Et c'est ce qu'on a fait ici pour une étoile de Herbig. En noir, c'est les observations. Donc, vous voyez la signature varier au cours du temps. Donc là, ici, on a la phase de rotation qui est indiquée. Et en rouge, c'est le meilleur modèle que j'ai obtenu pour retrouver le champ magnétique à la surface de cette étoile. Donc, grâce uniquement à ces observations, j'ai pu retrouver la géométrie de l'étoile, du champ magnétique, ainsi que sa période de rotation. On a une période de 4,3 jours, qui est plutôt lente. Une étoile, on va dire qu'elle va tourner rapidement lorsque sa période de rotation est inférieure à un jour, c'est-à-dire qu'elle fait un tour en elle-même en un jour. Pour comparer, le Soleil fait environ un tour en lui-même sur 29 jours, je crois. Alors, l'inclinaison de l'axe de rotation de 60 degrés, l'inclinaison de l'axe magnétique est de 125 degrés, et le champ dipolaire, donc au pôle nord magnétique de l'étoile, est de 1 kilogauss. Et on trouve que en fait, le dipôle est un peu déplacé par rapport au centre de l'étoile, de 0,05 fois le rayon de l'étoile. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire pour des étoiles comme les étoiles de Herbig, dont les données sont un peu bruitées. Mais on peut faire encore mieux. On peut faire de l'imagerie Doppler. Et cette imagerie Doppler tient compte du fait que l'étoile tourne sur elle-même et qu'on a une résolution Doppler. C'est-à-dire qu'en chaque... on peut diviser la surface de l'étoile qu'on observe par colonne, comme ça. Et chaque colonne va nous donner un point dans le spectre. Et si on voit des variations dans le spectre, ça va nous indiquer qu'on a quelque chose de différents comparé à là et là, à la surface de l'étoile. Comme ici, on a représenté une tache, comme on pourrait observer la surface du Soleil, comme une tache solaire, et donc une tache plus sombre, qui nous indique que dans le profil spectral d'une raie, eh ben, on voit une bosse. Alors, si je fais tourner l'étoile, on voit que cette tache, ces taches, parcourt le profil d'un endroit à l'autre. Et suivant la latitude de la tache à la surface de l'étoile, la déformation parcourt la déformation parcourt plus ou moins le profil. Je vais vous montrer. Dans cet exemple-là, la déformation commence ici et elle suit progressivement. Elle va se terminer par là. Et puis celle-là, elle commence ici, donc totalement au bord totalement pardon, au bord gauche de l'étoile et elle va terminer au bord droit de l'étoile. Alors qu'une tâche qui se trouve à une latitude plus élevée va parcourir uniquement le profil entre là et là. Donc ça nous permet non seulement de savoir, grâce à la résolution Doppler, à quel endroit les tâches se trouvent par rapport à la gauche ou à la droite, mais aussi enfin, en longitude, mais aussi en latitude, grâce au parcours des tâches le long des profils. Donc c'est uniquement en observant les étoiles à plusieurs instants, donc en les observant à différentes phases de rotation, qu'on peut retrouver le champ, pas le champ magnétique ici dans ce cas-là, mais uniquement les imperfections qu'il y a à la surface de l'étoile. Si on fait la même chose pour le champ magnétique, dans ce cas-là, ici on a le profil de Stokes-V, donc la polarisation circulaire, on voit le profil qui varie au cours du temps, et donc comme je vous l'ai déjà montré, en retrouvant en observant à différents instants, on peut reconstruire l'image de l'étoile. Donc c'est ce qu'ont fait certains de mes collègues. Ils ont observé des étoiles à différents instants. En particulier, cette étoile très magnétique, alpha de CVN. Ils ont observé, donc là, on a différents traits spectrales. Là, ils n'ont même pas besoin de combiner l'information dans les raies, tellement le champ magnétique est important. Ils détectent directement le champ magnétique à l'intérieur de toutes les raies spectrales. Et ils voient le profil y varier. Ici, on a la polarisation linéaire. En général, la polarisation linéaire n'est pas facile à détecter. Elle est plutôt d'un ordre 2. Mais en polarisation circulaire, on détecte très bien le champ magnétique. On le voit varier au cours du temps, donc dans les trois raies. Là, c'est une raie de chromium et fer. Là, c'est du fer 2 et aussi du fer 2. Et là, on a la polarisation circulaire associée à ces trois raies. Et donc, en modélisant toutes ces observations en même temps, ils ont un code d'inversion assez puissant. Et on obtient cette cartographie de l'étoile à différentes phases de rotation. Ici, c'est l'intensité du champ magnétique. Là, c'est en kilogauss. Donc, on a certains endroits des champs très intenses de 4,4 kilogauss. Et ici, on a les vecteurs magnétiques. Donc, les rouges sortent de l'étoile et les bleus rentrent à l'intérieur de l'étoile. Donc, vous voyez, on a plutôt une configuration globalement dipolaire avec un gros pôle nord par ici, puis un pôle sud par là. Donc voilà typiquement ce qu'on peut faire à la surface des étoiles. Alors, nous, on a fait un survey Herbig pour essayer de trouver du champ magnétique dans ces étoiles. On a observé 128 étoiles qui sont représentées ici dans le diagramme HR. J'ai superposé les trajets évolutifs de la préséquence principale à différentes masses, là de 1,5 à 15 masses solaires. Et j'ai observé cette étoile avec Espadon et Narval. Ces étoiles avec Espadon et Narval. Et voilà mes résultats. J'ai détecté 9 étoiles magnétiques parmi 120 étoiles. Je vous avais prévenu, hein, ces champs magnétiques sont rares, mais ils existent. Ça a été la première confirmation qu'en fait, même pendant la phase préséquence principale, on trouve des champs magnétiques. Alors, j'ai modélisé ces champs magnétiques, j'ai trouvé qu'ils sont aussi globalement dipolaires, ils ressemblent beaucoup aux champs magnétiques qu'on observe sur la séquence principale. Ils sont stables sur, maintenant, ça fait depuis 2005, donc 7 ans, et ils sont intenses, de 300 gauss à 2 kilogauss. Donc, tout nous dit qu'il y a un lien fossile qui a été établi entre les étoiles de la préséquence principale et les étoiles de la séquence principale. Et donc, leur champ magnétique a dû être... Les propriétés magnétiques plutôt des étoiles ont été formées, n'est pas le bon mot, mais ont été établies pendant la formation des étoiles. Alors, là, je vous ai principalement parlé en fait, des étoiles de masse intermédiaire jusqu'à 8 masses solaires, donc de 1,5 à 8 masses solaires. Et puis, il y a les étoiles massives, qu'on considère beaucoup plus massives que le Soleil, qui ont des masses supérieures à 8 fois la masse du Soleil. Et jusqu'en 2007, on ne connaissait pas grand-chose sur le champ magnétique de ces étoiles. On les observait dans les étoiles principalement Helium Weak ou Helium Strong. Donc, ce sont encore aussi des étoiles chimiquement particulières, mais qui montrent principalement soit une déficience en hélium, soit une richesse en hélium à la surface de ces étoiles. toujours comparé à l'abondance d'hélium observée à la surface du Soleil. On observait aussi du champ magnétique dans des étoiles qui n'étaient pas chimiquement particulières. Donc ça, c'est différent par rapport aux étoiles A et B de la séquence principale. Toutes ces étoiles montrent des anomalies d'abondance, mais dans certaines étoiles massives, non. Pourtant, elles sont magnétiques. Ces champs magnétiques sont similaires aux étoiles AP, et aussi, il y avait une nouveauté, c'est que certaines montrent des variations H-alpha ou photométriques, donc H-alpha, le profil H-alpha, qui est en émission dans ces étoiles et qui est variable. De la photométrie aussi, des variations dans les rayons UV, et puis des rayons X aussi qui sont variables, tous avec la même période. Donc par exemple, pour Sigma Ori I, qui est un peu le prototype de ces étoiles, on voit que, donc ici on a l'intensité du champ magnétique qui varie en fonction de la phase de rotation de l'étoile. Là on a la magnitude de l'étoile, la magnitude dans la bande U, qui varie en fonction de la phase avec deux minima. Là c'est le nombre de rays shell lines, je ne sais plus comment on traduit ça, de rays, bref, on va les appeler les shell lines. Et ici, c'est l'intensité en hélium. Dans les rays d'hélium, on voit que l'intensité varie en fonction de la rotation de l'étoile, tous avec la même période, une période de 1,19 jours. En particulier, ici, on a la variation H-alpha. Donc, vous voyez le profil H-alpha. Donc, en rouge, c'est le profil moyen, et puis le profil observé est ici. Donc, en rouge, ce n'est pas le profil moyen, ça doit être le profil modélisé, le profil théorique. Et donc, voilà ce qu'on observe dans le profil H-alpha. On voit des émissions, des absorptions qui surviennent. Et là, c'est le plot dynamique de ça. C'est-à-dire que là, on voit de l'émission, c'est ce qui est rouge, et là, on voit de l'absorption, c'est ce qui est bleu. Et ce plot, ça, c'est sur deux phases de rotation de l'étoile. Et donc, en fait, ce plot dynamique nous apprend pas mal de choses, et en particulier, il nous dit qu'en fait, on a des émissions qui viennent de plasma chaud à plus ou moins 750 km par seconde autour de l'étoile. Donc, c'est... ça veut dire que ça ne peut pas être à la surface de l'étoile, parce que l'étoile, à 1,19 jours, elle va tourner, je ne l'ai plus exactement en tête, mais elle va tourner entre 100 et 200 km par seconde. Et là, on est à des vitesses de 750 km par seconde. Donc ça veut dire que ça vient plus loin de la surface de l'étoile. Ça vient de l'environnement de l'étoile, on pense. Et ces nuages de plasma sont responsables de la périodicité de ces caractéristiques. Alors, pour expliquer ça, on peut prendre le modèle de Babel et Monmer de 1997. Donc, dans ce modèle, ils ont supposé une étoile massive. Il faut savoir que les étoiles massives sont très chaudes et émettent des vents. Les vents sont conduits par les raies de l'étoile, le rayonnement de l'étoile dans les raies. On a une étoile, un vent, donc jusque-là, il n'y a pas de souci, et puis il y a un champ magnétique. Donc, en fait, ici, on voit les lignes de champ magnétique qui se referment ici. Ce vent est conduit par les lignes de champ magnétique. Et là où les lignes de champ magnétique se referment, il faut s'imaginer un flux de l'étoile qui part du nord, mais un autre qui part du sud. Et lorsque les deux flux se rencontrent dans l'équateur, eh ben, ça collisionne. Et donc, ce modèle avait été proposé pour expliquer les émissions des rayons X autour d'une étoile massive, IQOR. Et en fait, si on prend ce modèle, on réalise qu'il y a un disque qui se forme dans l'équateur magnétique de l'étoile. Alors, si maintenant on va un peu plus loin, on va incliner le champ magnétique par rapport à la rotation de l'étoile. Là, ils ont supposé un champ magnétique et une rotation de l'étoile qui étaient alignés. On va se concentrer uniquement sur le disque, on va regarder que le disque, et puis on va essayer de regarder en trois dimensions. Et voilà ce qu'on obtient. C'était le premier modèle que Rich Townsend, un de mes collègues américains, a développé pour Sigma Aurii. Donc là, on a l'étoile au centre. L'axe de rotation est en jaune, et puis l'axe magnétique ici est en rouge, on le voit tourner. Et les lignes vertes sont les lignes de champ magnétique, donc il a supposé un dipôle tout simple qu'on supposait à l'époque à la surface de cette étoile. Et puis, les couleurs qu'on voit autour sont les surdensités, en fait, les densités du vent. Et donc, on voit que ce vent est plutôt dense, et très dense, en fait, à certains endroits, surtout à l'intersection entre le plan magnétique et le plan de rotation. L'équateur magnétique et l'équateur de rotation, ici et ici. Et en fait, ce sont les deux nuages de plasma dont je vous parlais avant, qu'on voyait dans le profil à chaleur. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc voilà, c'est ces surdensités qui sont créées. Oui. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle en fait la magnétosphère de cette étoile massive. Et cette magnétosphère, elle émet dans H-alpha principalement. Et on peut modéliser son émission comme qui apparaît ici et qui varie parce que l'étoile tourne autour d'elle et les nuages qui ne sont pas à symétrie sphérique changent lorsque l'étoile tourne. Et donc, on voit tout ça varier. On voit aussi que ces nuages passent dans notre ligne de visée, donc de temps en temps assombrissent l'étoile. Et donc, c'est pour ça qu'on voit deux pics dans la photométrie, deux éclipses dans la photométrie. Et puis, évidemment, le champ magnétique qui varie avec tout ça, avec la même période de rotation. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça tourne avec la même période de rotation grâce au champ magnétique. C'est parce que le champ magnétique est suffisamment intense pour figer tout ce qu'il y a autour de l'étoile. À quelques rayons stellaires, il est encore très intense pour tout figer. Donc le vent qui s'échappe de la surface de l'étoile n'a pas le choix, il est obligé de suivre les lignes de champ magnétique et de collisionner à cet endroit-là. Et pour vous convaincre que ça marche bien, c'est ce qu'avait publié Rich. Là, c'est ce qu'on observe. Donc, c'est le plot dynamique similaire à celui que j'ai montré précédemment. Avec les deux nuages, c'est le même nuage, avec les deux nuages de plasma qu'on observe, donc ces émissions qu'on voit dans H-alpha. Et voilà ce qui a été calculé par Rich grâce au modèle que je vous ai montré juste avant. Donc, ça se ressemble énormément. Alors, donc ça, c'était en 2007. Donc, on avait toutes ces caractéristiques magnétiques et donc on se demandait, en fait, finalement, quel est le rôle du champ magnétique dans l'aboutissement des anomalies d'abondance. Aussi, quelle est l'origine toujours de ce champ magnétique, hein, même question dans les étoiles massives. Et puis, ces phénomènes variables que je vous ai montrés, est-ce que c'est uniquement dans Sigma Aurii ou est-ce que Sigma Aurii est un prototype et en fait, ça existe dans plusieurs étoiles. Donc, on voulait essayer de répondre à toutes ces questions dans le but de, établir les propriétés magnétiques des étoiles massives, établir les propriétés des magnétosphères, leur structure, et puis voir quelles sont les corrélations entre les propriétés stellaires et circumstellaires. Donc, dans ce but, on a lancé ce projet MIMES. MIMES, c'est Magnetism in Massive Stars. C'est une grosse collaboration qui a débuté en 2008 suite à l'attribution d'un large programme Espadon. Un large programme, ça a été du temps garanti, donc 640 heures garanties pendant 4 ans et demi sur un télescope. Et puis, suite à Espadon, on a demandé aussi des larges programmes sur Narval et Harpspol et on a obtenu les temps. Donc, on a plus de 1500 heures de temps de télescope. On est sur la fin du projet. Les observations se terminent dans un an. Et en fait, le but principal, c'était d'établir donc les propriétés des étoiles, les propriétés magnétiques des étoiles massives. On avait seulement quelques étoiles qui avaient été observées, mais globalement, on n'avait pas trop d'idées quelle était l'incidence du champ magnétique dans ces étoiles et puis quelles étaient leurs propriétés. Alors pour ça, on a observé deux échantillons. On a construit deux échantillons. Il y avait certaines étoiles qu'on connaissait qui étaient déjà magnétiques, mais on ne connaissait pas bien leurs propriétés. On n'avait jamais modélisé leur champ magnétique comme je vous ai montré pour certaines étoiles. Et donc, on les a placées dans ce qu'on appelle le Targeted Component, le TC, l'échantillon TC, pour modéliser les champs magnétiques, donc les observer régulièrement 20 ou 30 fois, obtenir un bon modèle. Et puis, il y avait le survey component qui était dans le but de chercher du champ magnétique dans les étoiles, vu qu'elles ne sont pas toutes magnétiques. On a construit un échantillon de 400 étoiles dans le but de détecter du champ magnétique dans ces étoiles. Donc savoir lesquelles sont magnétiques et lesquelles ne le sont pas, et puis étudier les corrélations entre les propriétés magnétiques des étoiles et celles qui ne sont pas magnétiques. Donc ça, voilà quelques détections parmi les 19 qui ont été détectées jusqu'à présent dans MAGNS. Et je vais vous montrer quelques premiers résultats. Première chose, c'est qu'on a détecté un nouveau proxy, c'est-à-dire une indication indirecte de champ magnétique à la surface des étoiles. Ces étoiles ont un type spectral très particulier. On les appelle les OF point d'interrogation P. Et ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'on voit des variations périodiques dans les types spectraux. Ce sont des étoiles de type spectraux haut, donc très massives, au-delà de 35 000 Kelvin et au-delà de 20-25 masses solaires. On a donc des raies de carbone qui sont en émission et qui sont assez particulières. On voit aussi des faibles P-signi et enfin des étroits, des P-signi étroits, et puis d'autres caractéristiques dans le vent assez particulières qui font que ces étoiles sont classées là-dedans. Elles ne sont pas beaucoup à être classées. Il y en a plus que 5, il y en a peut-être 6 ou 7 qu'on en connaît, mais il y en a 5 qu'on pouvait observer, en tout cas avec l'instrument qu'on a. On les a observées toutes les 5 et elles sont toutes les 5 magnétiques. Donc 5 sur 5, c'est un joli résultat quand même. Et donc voilà, maintenant ce qu'on essaye de comprendre, c'est pourquoi ces étoiles-là, avec toutes ces caractéristiques, montrent un champ magnétique. Les variations périodiques sont les plus faciles à comprendre. On pense que c'est la même chose que ce qui se passe dans Sigma Aurii. Mais le reste est encore assez compliqué à comprendre. Deuxième résultat qu'on a obtenu, c'est un autre proxy finalement. On a un de nos collègues hollandais qui avait observé ce type de variation. Ici, c'est pour V2052OFF, mais des variations assez particulières dans l'arrêt de carbone 4, qui est très sensible au vent dans ces étoiles massives, qu'on observe uniquement dans l'ultraviolet, et qui montre ces variations, ces doubles variations-là, lorsqu'on replie en phase toutes ces variations. Donc ça, il y a deux phases de rotation de l'étoile qui sont représentées ici. Et en cherchant dans les archives des satellites IE, il a trouvé Sigma Loopy, on l'a observé, on a détecté un champ magnétique. Puis il a aussi trouvé HD25558, et puis on l'a observé, et on a détecté un champ magnétique. Donc c'est aussi un nouveau proxy. On essaye aussi de comprendre pourquoi ces variabilités typiques dans le carbone sont dues au champ magnétique. Donc c'est en cours. On a aussi trouvé d'autres étoiles qui montrent des variations périodiques de H-alpha, qui sont similaires à Sigma Aurii. Donc clairement, Sigma Aurii n'est pas unique, mais c'est un prototype. Là, je vous ai montré deux exemples, mais on en a à peu près 6 ou 7 actuellement qui montrent des variations. Et ces étoiles montrent des variations, donc un peu comme Sigma Aurii, on voit deux nuages autour de l'étoile assez distincts, et puis d'autres où ces variations sont moins nettes parce que l'étoile tourne beaucoup plus lentement, et donc du coup, vu que les nuages sont proches de l'étoile, on ne les résout pas bien. Et du coup, c'est ce qui se passe ici, on voit une variation, mais on ne résout pas bien les deux nuages, ou même plus, qui se trouvent autour de ces étoiles. Donc on trouve ça, mais on le trouve que dans certaines des détections MIMES. C'est-à-dire qu'on n'observe que des étoiles massives, elles ont toutes des vents. Elles ont toutes celles qu'on détecte magnétiques ont du champ magnétique, mais elles ne montrent pas forcément toutes des variations en H-alpha. Et donc la question, c'est de comprendre pourquoi. Et pour ça, on a fait des simulations. Donc ça, c'est des simulations d'autres collègues américains, Asif Abdullah et Stan Ovoki. Alors, là, c'est une simulation à deux dimensions, magnéto-hydrodynamique. Il n'y a pas de rotation à la surface de l'étoile. Enfin, l'étoile ne tourne pas. Là, on a l'étoile, on a les lignes de champ magnétique en noir. Et là est représentée la densité du vent, toutes ces couleurs, là, du vert au bleu foncé. Et c'est le début, là. Le vent est sphérique, est à symétrie sphérique autour de l'étoile. C'est l'état initial, et ensuite, on met la physique en route autour de cette étoile, et puis voilà ce qu'on obtient. Donc c'est une simulation dynamique. On voit clairement ce qui se passe. Là, il y a le temps en kilosecondes qui se déroule. Non, c'est en secondes, ça devrait passer, en kilosecondes, qui se déroule. Alors, ce qu'on observe, c'est que donc, le vent est guidé par les lignes de champ magnétique et puis se retrouve dans l'équateur magnétique ici pour former un disque. Mais après plusieurs instants, on voit que ce disque est totalement instable. Et pourtant, on observe ces nuages magnétiques sur des années. On les voit tout le temps. C'est pas ces nuages magnétiques, mais ces nuages de plasma, par exemple autour de Sigma Aurii. Et pourtant, les simulations nous disent que ça ne devrait pas exister. Même si ça se forme, ça se disloque très rapidement. En particulier, tout retombe à la surface de l'étoile assez rapidement, finalement. Il y a la gravité qui ramène tout. Soit ça retombe à la surface de l'étoile, soit c'est dispersé dans l'espace parce que les lignes de champ magnétique sont plus assez intenses pour retenir le vent. Et donc, les lignes de champ magnétique s'ouvrent et laissent s'échapper la matière. C'est d'ailleurs à cet endroit-là que se trouve à peu près le rayon d'Alven, ce qu'on appelle le rayon d'Alven. Important pour la suite de mes explications. Alors en fait, la clé, c'est la rotation. Si on met de la rotation, eh ben, la force centrifuge va faire en sorte que la matière soit gardée dans le disque. Elle ne va pas s'échapper et puis elle ne va pas retomber sur l'étoile. Donc en fait, au-delà du rayon d'Alven, elle va s'échapper, évidemment, parce que le champ magnétique n'est plus assez intense. Et donc, quand on fait tourner l'étoile, on voit donc un disque se former. Alors ici, on est au rayon d'Alven, donc au-delà du rayon d'Alven, la matière s'échappe. Et ici, on est à ce qu'on appelle le rayon de Kepler, c'est-à-dire le rayon où la force centrifuge devient suffisamment importante pour contrebalancer la gravité. En dessous, la gravité est trop forte et l'emporte sur la force centrifuge, donc on voit en fait le plasma qui retombe sur la surface de l'étoile. Au-delà, la matière s'échappe et entre les deux, on a un disque qui se forme et qui reste là. Même s'il peut vous paraître instable, il est suffisamment là pour expliquer ce qu'on observe. Et donc, en fait, ce qu'il y a ici, ce disque qu'on observe et qui est stable, qui ne retombe pas sur l'étoile, c'est ce qu'on appelle une magnétosphère supportée centrifugement. Ce n'est pas très joli en français, mais c'est centrifugalis supportée de magnétosphère en anglais. Et lorsqu'on observe, en fait, lorsque l'étoile ne tourne pas assez rapidement et que le rayon de Kepler est beaucoup plus loin, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas assez de force centrifuge pour maintenir une magnétosphère, toute la matière va retomber sur l'étoile, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une magnétosphère dynamique. Donc, on fait la distinction entre les deux. Et je crois que j'ai quelques équations. Voilà. Pour expliquer ça. Donc, on a deux paramètres qui sont importants, en fait, pour déterminer les étoiles qui ont une magnétosphère dynamique et une magnétosphère, on va l'appeler centrifuge. Et ces deux paramètres, c'est le taux de rotation de l'étoile, qui est en fait le rapport entre la rotation de l'étoile à l'équateur et la vitesse d'échappement de l'étoile, la vitesse d'échappement à certains rayons. Et puis, ce qu'on appelle le paramètre de confinement magnétique. Ce paramètre nous dit quelle est l'intensité du champ magnétique par rapport à l'intensité cinétique du vent. Donc, en fait, il nous dit s'il est capable de former une magnétosphère, si le champ magnétique est suffisamment intense pour avoir une magnétosphère. Et état star, il faut qu'il soit supérieur à 1 pour qu'il ait une magnétosphère. Alors, donc, je crois avoir tout expliqué pour la suite. Ça, c'est ce que la théorie nous dit. Voilà ce qu'on on essaye de faire, nous, observateurs. On a ce graphique avec le paramètre de confinement magnétique qui va de 1 jusqu'à 10 puissance 8, je crois. Et ici, on a le taux de rotation qui va de 0,01 à 1. Là, c'est lorsque le rayon de Kepler est égal au rayon d'Alven. Donc ici, on a une magnétosphère centrifuge. Si on se trouve à un endroit où le rayon de Kepler est inférieur au rayon d'Alven, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir une magnétosphère centrifuge. Dans le cas contraire, si le rayon de Kepler est supérieur au rayon d'Alven, on a une magnétosphère dynamique. Donc ici, on est à état star inférieur à 1, on n'est pas censé avoir de confinement, donc on n'est pas censé avoir de magnétosphère. Là, on a une magnétosphère dynamique et là, une magnétosphère centrifuge. Et voilà où se trouvent nos étoiles. Alors, ça, c'est toutes les étoiles magnétiques qu'on a observées avec MIMS. Les étoiles rouges, enfin les points rouges, sont les étoiles de type spectral O, donc très chaudes. Les étoiles, les carrés bleus, sont les étoiles de type B avec des températures supérieures à 22 000 Kelvin. Et puis les autres, les triangles verts, sont des étoiles B, de type spectral B, mais avec des températures inférieures à 22 000 Kelvin. Sachant que nos étoiles ont des températures supérieures à 18 000 Kelvin pour notre échantillon dans notre projet. Et donc, ce qu'on se pose maintenant, on sait que toutes ces étoiles sont magnétiques, mais est-ce qu'elles ont des émissions H-alpha qui nous disent qu'elles ont des magnétosphères ? Ou en tout cas, on voit de l'émission H-alpha qui est variable. Et donc, voilà toutes ces étoiles qui montrent de l'émission H-alpha est variable. Alors là, on se pose la question. Donc là, on en trouve, ce qui est normal. Hein. On a donc une magnétosphère centrifuge. Et ici, on le voit. On voit aussi, on détecte de l'émission, on détecte de la variabilité, et on remarque que on le détecte uniquement autour des étoiles de type spectral O, donc les étoiles les plus chaudes. Alors, ce qui se passe, c'est que donc les magnétosphères centrifuges sont faciles à détecter, faciles à voir, parce que le disque est stable, il est formé, il est stable avec le temps, donc l'émission, elle est facilement détectable. Il suffit qu'il soit suffisamment dense pour qu'on puisse le détecter. Les magnétosphères dynamiques sont beaucoup plus difficiles à détecter vu que ça bouge tout le temps. Le disque n'est jamais formé complètement, il n'est jamais stable, il retombe toujours sur l'étoile. Donc, et tout ça en quelques heures. Donc on se demande vraiment comment on peut détecter ces magnétosphères. Mais en fait, dans les étoiles massives, les étoiles de type O, qui sont très chaudes, qui sont les plus chaudes de nos échantillons, les vents sont très denses, sont très forts. Et donc, du coup, même si ce qui se forme autour de l'étoile dans le disque est très instable, eh bien, la densité de ce disque va être tellement importante qu'on va quand même pouvoir le détecter pendant le temps d'observation de l'étoile. Et donc, c'est la raison pour laquelle on pense qu'on détecte aussi ces variations en H-alpha autour de ces étoiles. Et alors, on détecte aussi autour de ces étoiles, donc, en pointillé bleu, j'ai montré ceux dans lesquels on voit des variabilités dans les raies UV. Ce sont des raies qui sont sensibles au vent. Et donc, on voit ces variabilités autour de ces étoiles. Donc, ces étoiles, on sait qu'il y a un vent parce qu'on voit la signature du vent dans les raies UV. Mais par contre, on ne détecte pas de magnétosphère autour de ces étoiles. Donc, ces étoiles, c'est assez normal. Ces étoiles-là ne tournent pas suffisamment rapidement pour avoir un disque stable et détectable, et elles ne sont pas assez chaudes pour pouvoir le détecter. Et puis, autour de cette étoile-là, c'est encore quelque chose qui nous reste à comprendre. De même que cette étoile-là. Il y a quand même une qui est censée ne pas pouvoir confiner son champ magnétique, et pourtant, on observe de l'émission H-alpha. Et puis ici, on observe aussi ces étoiles. Bon, enfin, ça, j'arrive à la fin, donc... Alors, il y a un résultat récent, tout récent, hein, qui, euh, qui confirme plus ou moins en fait, les simulations qui ont été faites par Asif Abdullah et qui explique que ce qu'on observe autour de ces étoiles O, ces émissions H-alpha qu'on observe, eh ben, c'est bien dû en fait, à des magnétosphères dynamiques. Ici, le résultat de la simulation, donc ça c'est un snapshot, donc une vue. Ça, c'est il a superposé plusieurs vues de l'étoile à différents instants. Et voilà ce qu'on observe. Et voilà ce qui est simulé. Donc, clairement, les magnétosphères dynamiques telles que simulées par Asif et par John Sundquist semblent expliquer les émissions H-alpha autour de ces étoiles. Donc, c'est tout récent. Hein, l'article vient d'être accepté. Alors, deux résultats qui nous dérangent actuellement, c'est que je vous ai dit que pratiquement toutes les étoiles... Alors, je vous l'ai dit pour les étoiles de masse intermédiaire, les champs magnétiques sont stables, plutôt organisés à grande échelle, donc principalement dipolaires. Mais il se trouve que, et parmi les étoiles massives aussi, c'est le cas. On voit aussi des champs dynamiques, des champs plutôt stables et organisés à grande échelle, plutôt dipolaires. Et là, récemment, mon collègue suédois, Oleg Kochukov, a détecté un champ magnétique à la surface de cette étoile qui est très complexe. Il ressemble plutôt à ce qu'on observe à la surface des étoiles de faible masse. Il est stable, mais complexe. Donc ça, c'est encore quelque chose qui nous reste à comprendre, surtout dans l'hypothèse de la théorie du champ fossile. C'est encore... Donc voilà un résultat récent. Et puis ça, c'est aussi un de mes résultats tout récents. J'avais détecté un champ magnétique à la surface de HD 190-073. Une étoile de Herbig, et pendant 4-5 ans, on avait observé ce champ magnétique, toujours le même, quel que soit le moment où on l'observait. Donc en noir, ce sont les observations, en rouge, c'est la moyenne de tous ces profils qui est superposée. Donc on voit qu'il y a très peu de variations, en tout cas c'est dans les barres d'erreur. Et donc, je m'étais dit que c'était une candidate parfaite pour calibrer les nouveaux instruments qu'on utilise. Donc, je m'étais dit que c'était un calibrateur magnétique. Et puis, je l'ai observé en 2011, il y a un an. Et voilà ce que j'obtiens. Donc, j'obtiens un truc tout plat. Et puis, je la réobserve avec un autre instrument, quand même, que j'avais déjà utilisé avant pour vérifier ce qui se passe. Et puis, voilà ce que j'observe avec Narval. Et ainsi de suite, et j'ai observé, et à chaque fois, le champ varie et est différent du profil rouge, alors que je m'attendais à ce qu'il soit tout le temps comme ça. Et alors ça, c'est le grand mystère actuellement, on ne sait pas trop ce qui se passe à la surface de cette étoile. C'est une étoile très jeune. Normalement, son champ magnétique était stable là, pendant 5 ans, et tout d'un coup, il se met à varier, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors on se demande s'il n'y a pas, en fait, lorsqu'une étoile qui vient de se former, il n'y a pas une période de stabilisation pendant laquelle le champ magnétique va en fait se stabiliser. Et en particulier, l'axe magnétique pourrait varier et trouver sa position d'équilibre. Et donc, on est peut-être en train d'observer une étoile pendant sa phase de stabilisation magnétique. Et donc, voilà, c'est à suivre. Donc, je vous résume rapidement les points essentiels qu'il faut savoir sur le champ magnétique des étoiles de masse intermédiaire et des étoiles massives. Ces champs sont organisés à grande échelle, c'est-à-dire dipolaires ou quadrupolaires. Hein, c'est l'un ou l'autre, mais c'est de faible polarité. Ils sont forts, ils sont seulement dans 10% des étoiles et on pense que l'origine est fossile. On les trouve parmi les étoiles chimiquement particulières dans les étoiles de masse intermédiaire. On les trouve parmi les étoiles Helium Strong, parmi des étoiles variable UV, dans des étoiles UF?P, dans des étoiles Tosco aussi. Bref, il y a plusieurs proxys qui sont assez différents parmi les étoiles massives. On s'est rendu compte que les étoiles OB ont des magnétosphères qu'on peut détecter dans H-alpha si la rotation de l'étoile est suffisamment intense, si le champ magnétique est suffisamment intense et si la densité du vent est suffisamment intense. Et dans ces cas, on détecte principalement des magnétosphères centrifuges parmi les étoiles B et des magnétosphères dynamiques parmi les étoiles O. Et tout ça, c'est des résultats grâce à la collaboration MAGS. On a quelques puzzling results, des résultats déroutants, donc que je viens de vous présenter. En particulier aussi, un truc qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi il n'y a que 10% de ces étoiles qui sont magnétiques. D'après l'hypothèse des champs fossiles, on s'attendrait à ce qu'elles, finalement, le soient toutes. Et puis voilà, quelques projets futurs si vous voulez me poser des questions. Voilà. Merci de votre attention.